Bonjour à tous, ça va bien? Heureux de vous retrouver. Cette semaine, on poursuit, comme Mireille l'a mentionné, dans la lettre aux Romains. Alors, si vous avez manqué le début de la lettre aux Romains, je vous invite à prendre le temps d'aller écouter les messages précédents. C'est vraiment une lettre extraordinaire qui se tient d'un bout à l'autre, du début à la fin. Donc, il faut comprendre comment Paul développe son argument. La semaine dernière, on a vu un très, très beau passage, un des plus connus peut-être de la lettre aux Romains, Romains 3, 23, 24, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Tout est là, l'Évangile est présent, la grâce, l'amour de Dieu, l'espérance pour nous. C'est vraiment un passage extraordinaire. Comme ça a été évoqué tout à l'heure, certains d'entre vous, vous vous rappelez peut-être de mon image un peu choquante que j'ai utilisée. Bien, à quelque part, ça définit ou ça décrit, il me semble, notre état devant Dieu, notre justice à nous, si on essayait de se justifier devant Dieu, de se présenter devant lui et dire « Regarde Dieu ». Je suis vraiment, vraiment sur la coche. Je mérite ton amour, je mérite ta présence. Je pense que l'ensemble de nos œuvres, avec toutes nos fautes, tous nos péchés, ressemblerait pas mal plus à mon image du bol de toilette la semaine dernière. J'espère que ça vous a marqué. C'est le but. C'est vraiment le but. Et ce que Paul fait ce matin dans Romains 4, il répond à une question importante parce que ça va si moi je regarde ma vie, puis tu sais, si je ne me vois pas comme un quelqu'un de spirituel extraordinairement, quelqu'un de grand, tout ça, ça va, c'est correct, on me dit je ne suis pas juste, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de la grâce, mais on connaît tous des gens qui nous impressionnent. Des gens qui ont marqué, des gens, tu dis, oui, mais cette personne-là, tu sais, s'il y avait quelqu'un là, qui mérite quelque chose de la part de Dieu, Paul va répondre à ça avec des héros de la foi, en parlant d'Abraham, père de la nation juive, mais dans la foi, père de tous les croyants, comme on va le voir ensemble ce matin. Qu'en est-il d'Abraham, qui était un homme quand même extraordinaire? David qui a combattu pour protéger le peuple de Dieu. David qui a écrit beaucoup de psaumes, des prières extraordinaires. La Bible se démarque, entre autres, par les écrits de David, parce qu'il nous parle d'une intimité avec Dieu, d'une humilité devant Dieu, d'une exaltation de la personne de Dieu. Mais qu'en est-il de personnages comme Abraham, comme David? Est-ce que ceux-là ne mériteraient pas, à quelque part, la reconnaissance de la part de Dieu, parce qu'ils sont extraordinaires? Mais ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que la somme de nos bonnes œuvres, devant la sainteté, la perfection de Dieu, nous prive en fait de la gloire de Dieu. Et il en va de même pour Abraham et pour David. Dans le domaine de la foi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui dépassent des personnages comme Abraham et David. Abraham qui a tout abandonné pour suivre Dieu, David qui a fait des choses incroyables. Et Paul répond à la question, qu'en est-il de ces grands de la foi? Est-ce qu'ils avaient besoin de la grâce aussi? Et le chapitre était un peu long à lire, donc Danny va venir nous lire à partir du verset 13. Je vais vous raconter un peu plus ce qui précède, et on va lire ensemble le verset 13, on va dans la prière. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta présence ce matin, tu as un message pour nous, personnellement, en fait tu le dis comme ça dans Romains, mais nous. Et Seigneur, on veut le recevoir comme ça ce matin, je te prie de venir parler à nos cœurs. Je te prie de faire taire nos esprits agités, nos soucis de la semaine, nos préoccupations de la journée qui vient. Seigneur, viens nous rendre disponibles à recevoir le message de ta parole. Je te prie que ce message dépasse tout ce que moi je peux communiquer, tout ce qui est même écrit là, que ça vienne prendre vie, Seigneur, en nous par ton Esprit Saint. Viens agir puissamment, je crois, et ta parole affirme que nous avons besoin de ce message-là, ce matin, Seigneur. Viens parler à nos cœurs, c'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen.
Alors, bon matin. Alors, le passage de ce matin est dans Romains, au chapitre 4, les versets 13 à 25, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Romains, au chapitre 4 et au verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et la promesse est annulée, car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi, d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce que lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à qui nous croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen.
Merci, Danny. C'est de la gymnastique verbale, ce texte-là. J'ai deux images pour vous ce matin. Elles sont plus propres que la semaine dernière. C'est des images moins nauséabondes, d'accord? J'ai deux images pour vous ce matin. Vous avez entendu parler de dossiers qui circulent sur Internet. Dossier Epstein, ça vous dit quelque chose? Il y a des gens qui ont des gros dossiers. En fait, je me suis amusé à demander à mon assistant virtuel combien de têtes couronnées ou combien de personnages publics sont tombés suite aux révélations de ça. Puis la liste commence à s'étirer un peu partout dans le monde. Puis à quelque part, on veut la justice, n'est-ce pas? C'est ça qu'on veut. Mais à ma première image, c'est pas ce dossier d'Epstein, c'est plutôt le tien, le mien. Alors, imagine que tu te retrouves dans un bureau. Il y a quelqu'un qui est devant toi et il ouvre un dossier. Et ce dossier-là, c'est la somme de tout ce que tu voudrais qui ne soit jamais révélé de tes pensées, de tes actes, de tes paroles, de tes gestes, tes péchés. Tout ça se trouve dans ce dossier-là. D'accord? Première image. Et alors que tu te présentes dans le bureau, la personne qui détient ce dossier-là va le fermer devant toi et va le passer à la déchiqueteuse. Il va te dire ton dossier est complètement oublié. Toute trace de tes fautes sont effacées. Première scène. Deuxième scène. La bonne semaine ne s'arrête pas là. Tu reçois un coup de fil d'un notaire, cette fois-là. Tu es convoqué parce que ton nom est apparu dans un testament. Alors, imagine que tu es convoqué pour te rendre chez un notaire, tu te rends chez le notaire, on ouvre le testament devant toi, ton nom se trouve là, et non seulement ton dossier vient d'être déchiqueté, mais tu es fait héritier, puis tu découvres que tu es un héritier. Est-ce que ce ne serait pas une bonne semaine, cette semaine, si ça commençait comme ça, n'est-ce pas? Imagine, petite vacances dans le sud, qu'est-ce qui s'en vient avec ça? Je ne sais pas, tu es héritier. Maintenant, quand tu sors de chez le notaire et que tu reviens dans la vraie vie, dans la réalité, que ton dossier soit effacé, que tu sois héritier, ça ne veut pas dire que ça change ton quotidien. Ça. Et comment est-ce qu'on fait pour avancer dans la réalité, alors que la vie dans les faits continue à être difficile, continue à être un combat? Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. Quand Dieu pardonne, il nous fait aussi héritiers et nous apprend à espérer alors que tout dit le contraire. Et on va revenir sur ces images-là, gardez-les à l'esprit. Première scène, un dossier qui est sur la table, ça contient ton passé, tes fautes, ta culpabilité. Et Paul va dire quelque chose avant d'aller plus loin. Écoute ce que David est en train de dire dans ce passage, donc dans la section des versets 1 à 13. David va dire « Heureux celui à qui Dieu ne tient plus son péché contre lui. » Dieu ne retient plus son péché contre lui. Si je te disais que la foi chrétienne commence parfois non pas par une victoire, mais par un soulagement. La vie chrétienne ne commence pas par une victoire, mais par une décharge. Tu es déchargé. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Premier élément que je veux souligner dans le texte, « Heureux le pécheur, Dieu ne tient plus ton passé contre toi. » C'est saisissant parce que Paul, après nous avoir dit que tous les êtres humains sont pécheurs, Romains 1, après nous avoir dit non seulement tous les êtres humains, mais les religieux font partie de ça aussi, ceux qui prétendent connaître Dieu, hein? Romains 2, Romains 3. Il nous expose le fait qu'on est tous privés de la gloire de Dieu, chacun d'entre nous. Puis ensuite, il dit, mais qu'en est-il des héros de la foi? Est-ce qu'eux ne se qualifiaient pas? Bien, David va dire ceci au verset 7. C'est Paul qui nous rapporte ses propos. « Heureux sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Il y a un bonheur réel à savoir dans toute conscience devant Dieu que tes fautes sont pardonnées, que ton dossier est classé. « Heureux ceux dont les iniquités, les péchés sont pardonnés. » Verset 8, « Heureux l'homme, la femme, à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Et ça veut dire tout simplement que Dieu ne tient plus compte de tes fautes, il les garde plus contre toi. Tu sais, quand tu as heurté quelqu'un sérieusement, tu sens dans la relation lorsque la personne a vraiment passé par-dessus. Des fois, on blesse, on exprime qu'on est désolé, on demande pardon, on s'excuse, peu importe. Puis là, tu vois que la personne souffre encore. Tu sais, il y a comme un regard, il y a quelque chose qui est peut-être méfiant dans le regard, il y a peut-être... Je ne sais pas si j'ai le goût de m'exposer encore une fois. Et souvent, dans un rapport humain, ça n'arrive pas toujours, mais souvent, tu vas sentir le moment où, OK, la personne a décidé qu'elle passait à autre chose. On continue la rencontre, on termine la rencontre, puis lorsqu'on se laisse, on se dit, wow, on est en paix, c'est une grâce incroyable. Vous savez, vous connaissez ce sentiment-là? C'est vraiment extraordinaire. Ici, David est en train de dire, « Heureux celui à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Dieu dit, je ne retiendrai pas ça contre toi, j'ai mis ça de côté. Tout simplement. Il ne te condamne pas, il ne te demande pas de payer ta dette. Oui, c'est correct, mais. Ça va, mais. Non, il n'y a plus de mais. Il n'y a plus de mais. On est vraiment cool, tu es vraiment pardonné complètement parce que Jésus a porté ton péché. Dieu t'accueille comme pardonné quand tu mets ta foi en lui. Et certains d'entre vous, vous vous dites, « Mais Yannick, c'est l'Évangile, je sais, je connais ça. J'ai été baptisé, je connais tout ça. » Et pourtant, Paul est en train de prêcher l'Évangile à l'Église de Rome. Il veut aller à Rome pour annoncer l'Évangile à ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, mais il est en train d'écrire la lettre à l'Église de Rome parce qu'il semble que, comme chrétien, on a tendance à ne pas vivre dans ces réalités-là, à oublier ces vérités-là et à vivre comme si on n'était pas pardonné. Comme si Dieu n'avait pas vraiment effacé. Ce bonheur-là n'est pas la fierté de « j'ai réussi ». C'est le fun de pouvoir dire « j'ai réussi », mais c'est un poids aussi. Avant d'arriver à « j'ai réussi », souvent c'est « j'ai eu un échec, j'ai eu un échec, j'ai eu un échec ». Et ce rapport-là avec Dieu ne dépend pas d'un « j'ai réussi ». C'est ce que David est en train de dire. David, qui était un homme de Dieu extraordinaire, a aussi été un pécheur incroyable devant l'Éternel, volant la femme d'un autre, s'arrangeant, manigançant pour que l'époux de cette femme soit tué. L'homme qui a écrit des psaumes incroyables a été un pécheur horrible aussi, parce que c'est ça, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Je ne reviens pas sur mon image de la semaine dernière, hein? Mais David fait partie du lot. Ce bonheur-là n'est pas la fierté de pouvoir dire « j'ai réussi ». Ce que Paul fait ici au verset 4, c'est qu'il oppose la logique du salaire à celle du don. Il y a plein de choses qu'on fait dans la vie qui méritent un salaire. Et c'est normal. Tu vas travailler dans une entreprise, bien, on va te dire « mérite ton salaire ». Je ne t'ai pas embauché pour te faire un cadeau. Je t'ai embauché pour que tu mérites ton salaire. Je t'ai embauché pour que tu fasses du travail pour moi. Et ici, Paul est en train d'opposer cette logique-là dans le contexte de notre relation avec Dieu, dans le contexte de la grâce. Il est en train d'opposer cette logique-là du salaire. Voici ce que tu mérites à celle du don. Et il dit, il y a un bonheur profond qui nous transforme. Heureux celui à qui le Seigneur n'impute pas ses fautes. De savoir que on est vraiment bien, Dieu et moi, parce que ça ne dépend pas de « j'ai réussi », ça dépend de ce que Christ a fait à la croix. Et donc, je peux m'approcher de Dieu avec une véritable assurance, une véritable paix, une vraie confiance. Je connais mon dossier. Moi, je voudrais le ressortir de temps en temps. Mais Dieu me dit, « je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas à quoi tu fais référence. C'est détruit. » Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas ses fautes. C'est une grâce extraordinaire et ça procure un bonheur réel. David n'est pas heureux parce qu'il a réussi. Il est heureux parce qu'il a été déchargé. Est-ce que tu vis ce bonheur-là au quotidien? Ou est-ce qu'au quotidien, tu es dans un rapport de performance même avec Dieu? Heureux. Dieu ne me le reproche plus. Quand tu choisis de croire dans l'œuvre de Christ à la croix, ta relation fondamentale avec Dieu ne repose pas sur tes performances. Fondamentalement, ce n'est pas ça. C'est une relation d'appartenance qui repose sur un don gratuit. C'est une assurance d'appartenir, d'être là où je dois être avec Dieu parce que j'ai été pardonné. Tout repose sur le fait que Dieu m'a pardonné. Ce que ça veut dire concrètement, pour certains d'entre vous, ça veut dire dépose ton dossier. Arrête de vivre dans cette perspective d'un Dieu qui te surveille, cherche à trouver tes fautes, cherche à quel moment tu vas te planter. Cette lecture-là est fausse. Si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, dépose ton dossier aujourd'hui. Confesse simplement, puis refuse de te condamner toi-même. Ce n'est pas que je traite le péché à la légère ici. Non, le prix du péché, de mon dossier, c'est la croix. C'est Christ crucifié. Il n'y a rien de léger dans ça. C'est lourd de conséquences. C'est la mort de Christ sur la croix. Ce n'est pas léger, mais c'est réel. Et certains d'entre vous, vous ne vivez pas comme si votre dossier avait été passé à la déchiqueteuse. Vous ne vivez pas sous la grâce. Vous prêchez l'Évangile, mais vous ne vivez pas sous la grâce. Arrête de te définir par ton passé. Ça, c'est plus ton identité si tu es en Jésus-Christ. Ton identité, c'est celle d'une personne qui a été pardonnée. Quand le pasteur Basile nous dit « bien-aimé », mais c'est parce qu'on est bien aimé en Jésus-Christ. C'est vrai. Ce n'est pas une figure de langage. Nous sommes bien aimés. Vie sans dossier contre les autres. Ça implique ça aussi. Ça implique ça aussi. Si Dieu t'a fait grâce, si Dieu ne retient plus ton péché contre toi, cesse de ressortir les fautes des autres et choisis de faire un pas concret de pardon, de réconciliation. Peut-être que c'est ça pour toi, classer le dossier cette semaine. Tu veux bien de la grâce de Dieu pour toi, mais tu tiens des dossiers. Oh, il y a des noms sur ces dossiers-là. Tu en as 3-4 dans ta filière. Et ils s'épaississent avec le temps parce que tu ne vis pas la lumière de la grâce. Ce que Dieu a fait pour toi, fais-le pour ton prochain. Alors, premièrement, ce que je vois dans ce passage-là, heureux le pécheur, Dieu ne tient plus ton passé contre toi. Heureux l'homme, c'est vrai pour David, c'est vrai pour les plus grands de la foi, c'est vrai pour toi et moi. C'est magnifique. Dieu ne fait pas que retirer ce poids-là. Il va aller plus loin encore. Vous allez voir, le texte est extraordinaire pour nous porter dans la foi, pour nous engager dans la vie chrétienne. L'Évangile englobe vraiment toute la vie chrétienne. Ça nous porte à tous les jours, pas simplement pour se préparer au baptême. Non, à tous les jours, je peux aller me ressourcer dans l'Évangile. Vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Il te donne une direction. Le passage nous montre non seulement que Dieu pardonne à David, heureux celui contre qui Dieu ne retient pas l'iniquité, mais il parle d'un héritage, il parle d'un avenir. Dieu nous donne un avenir, parce que Paul nous conduit maintenant vers Abraham. Et Abraham, c'est autre chose, c'est une autre perspective complètement, c'est une expression incroyable qui est là. Il parle de l'héritage du monde qui a été réservé à Abraham et à sa postérité. Le rapport de foi en David et Dieu, c'est celui du pardon. C'est l'illustration que Paul veut nous donner ici. Le rapport de foi entre Abraham et Dieu, c'est celui de l'héritage, c'est celui de la promesse. Et c'est très, très beau. C'est la beauté de l'Évangile. L'Évangile ne permet pas seulement que Dieu ferme ton dossier. Dieu ne fait pas que classer ton passé ou même tes fautes à venir. Non, il te donne un avenir. Il te donne un héritage. D'où mes deux illustrations, celle du dossier et du testament. Non seulement ton dossier est classé, mais ton nom est écrit dans le testament. Et tu es convoqué pour découvrir cet héritage-là. Heureux l'héritier, Dieu te promet l'héritage du monde. Ça m'a frappé. Je ne sais pas, ça fait combien de fois que je lis la lettre aux Romains en 30 quelques années de vie chrétienne. Ça fait je ne sais pas combien de fois que j'étudie cette lettre-là. J'ai eu un cours de théologie juste sur cette lettre-là. La parole est tellement riche, j'ai été frappé. Et je voyais dans cette expression-là un peu la synthèse de tout le chapitre. Verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, sa descendance. C'est par la justice de la foi. Et ce que Paul vise ici, c'est cette promesse incroyable qui avait été donnée à Abraham, qu'il ferait de lui une descendance dans toutes les nations de la terre. C'est une promesse incroyable. Dieu a promis à Abraham que sa descendance se multiplierait sur toute la terre, qu'elle serait large. Et là, il nous dit que cette promesse-là est non seulement pour Abraham, mais pour sa postérité, pour sa descendance. Regardez les versets 16-17. « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, c'est-à-dire aux Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. » Alors, Abraham a cru Dieu quand Dieu lui a dit, « Je vais te donner une postérité innombrable sur la terre. » Abraham a cru en lui. Et ce n'est pas sur la base de la performance d'Abraham. Dieu ne lui a pas dit, « Si tu, je te donnerai. » Non, « Parce que tu crois, je te donnerai. » Et c'est simplement sur la base de sa foi. Maintenant, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on peut être tenté de croire que cette promesse-là touche les Juifs. Mais Paul nous dit, attendez, tous les Juifs ne sont pas Juifs. Tous les Juifs ne sont pas fils d'Abraham, filles d'Abraham. Seuls ceux qui ont la foi d'Abraham, et donc par conséquent, nous qui ne sommes pas Juifs, nous sommes fils et filles d'Abraham, si nous possédons la foi d'Abraham. Et donc, on participe à cet héritage, l'héritage du monde, c'est ce qu'il dit dans le passage. La promesse faite à Abraham ne visait pas seulement sa descendance biologique. Paul dit qu'elle est assurée à toute la postérité, c'est-à-dire à tous ceux qui ont la foi d'Abraham, venant de toutes les nations en Jésus-Christ. Cette promesse s'accomplit. Nous, les non-juifs, sommes intégrés à cette famille par la foi. Et Dieu fait de nous des héritiers. En fait, dans Éphésiens, il va nous dire des co-héritiers avec Christ. Ce n'est pas dans n'importe quel testament que ton nom a été écrit. Ce n'est pas un notaire humain qui dit « Ouais, il y a quelqu'un que tu as rencontré dans ta vie puis il t'a laissé un petit 10 000. » Non, c'est pas de ça qu'on parle. On est en train de parler de la nouvelle alliance. Et ton nom est inscrit dans le testament de Jésus-Christ. Tu es co-héritier avec Christ. C'est ça que Paul dit. Par la foi. C'est incroyable. En Jésus-Christ, cette promesse s'accomplit encore plus loin que simplement le peuple juif. Nous ne sommes pas seulement dans la famille, nous devenons co-héritiers avec Christ. Tout ce que le Père donne au Fils, il le partage avec ceux qui sont unis au Fils par la foi. Je suis fils de Dieu et accueilli dans la maison de Dieu. Tu es fille de Dieu et accueilli dans la maison de Dieu, comme Dieu le Fils fait partie de la famille de Dieu. Jésus dit, « Je prie pour eux afin qu'ils soient un comme nous sommes un et qu'ils soient un avec nous. » On devient littéralement co-héritier avec Christ. Et Dieu nous a donné son esprit afin que déjà, dans notre cœur, lorsqu'on va dans la prière, ma prière, c'est quoi? C'est Père, Papa. Avec cette conviction profonde que je suis accueilli, pas parce que j'imagine un Dieu qui me conviendrait, pas parce que je réduis Dieu ou je le définis comme ça me plairait. Non, non, je connais le Dieu saint, je connais le Dieu trois fois saint. Je connais le prix de cette grâce qui est la croix, Jésus qui meurt sur la croix. Je suis conscient de ça, je suis lucide, je connais le prix qui a été payé. Et à cause de cela, quand je viens dans la prière, j'ai cette douce et ferme assurance que je suis accueilli dans la présence de mon Père céleste. Je fais partie de la famille. Et comme Jésus priait Père, moi je peux prier Père. Jésus dit littéralement à ses disciples, « Vous allez prier comme j'ai prié. » Parce que Jésus est, oui, mon Dieu, Dieu le Fils, oui, mon Seigneur, mais il est aussi mon frère. Il est aussi mon frère. C'est ce qu'il déclare à ses disciples. Jésus, par cette promesse, accomplit infiniment plus que ce qu'Abraham aurait jamais pu imaginer. Et déjà, on a son esprit comme un avant-goût, comme une garantie de cet héritage. Il nous fait goûter à la vie du royaume lorsqu'il nous attache à une église. J'intègre l'église universelle, mais ça se concrétise lorsque je me joins à une assemblée. Et oui, les églises ne sont pas parfaites. Les églises sont loin d'être parfaites. On a tous des péchés avec lesquels on lutte et on se heurte et on se blesse. Mais quelle grâce de faire partie d'une assemblée, d'être accueilli par des gens qui connaissent la grâce de Jésus-Christ et qui disent, viens, on va pleurer ensemble, viens, on va prier ensemble, viens, je vais marcher avec toi, je veux te rappeler l'Évangile, je veux te rappeler que le Père t'aime, je veux te rappeler la grâce, viens, on est ensemble, on va traverser ça ensemble. Et je peux vivre ça à peu près partout sur la terre, partout où il y a des églises. C'est incroyable. C'est merveilleux. Déjà, je profite de cet héritage qui m'est donné et j'attends, bien sûr, le retour de Christ. J'attends ce jour où le péché va être exclu même de toutes ces relations. Oh là, l'Église va être parfaite. Là, on ne se blessera plus, il n'y aura plus de heurts, il n'y aura plus d'offenses. J'attends ça, je languis après ça. Maranatha, reviens Jésus. J'ai hâte d'être libéré de moi-même encore plus. Mais déjà, j'ai l'Esprit Saint qui habite en moi. Et déjà, je participe à cet héritage. Lorsque je vais dans la prière, mon rapport à Dieu n'est pas un rapport avec un Dieu en colère contre moi, distant, froid, éloigné. Non, je le connais intimement parce que c'est le Père de mon Seigneur Jésus. C'est maintenant mon Père parce que mon Seigneur Jésus est aussi mon frère. Et j'expérimente ça constamment dans la prière. Et on est appelé à le vivre en Église lorsqu'on va ensemble dans la prière. C'est une réunion de famille où on s'en va à la rencontre de notre Père, de notre frère, de l'Esprit Saint qui habite en nous. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Et c'est ça l'Église. C'est ça l'Église locale. Avec toutes ses imperfections, on a déjà un avant-goût de ça. On participe déjà au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est déjà inauguré à travers chacune des personnes qui placent sa foi en Jésus, chacune des églises que le Seigneur Jésus implante sur la terre. Déjà, le royaume de Dieu est apparent, est évident. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, sans même venir à la connaissance de Jésus-Christ, vont côtoyer des églises toute leur vie. Il y a des gens qui viennent ici semaine après semaine, mois après mois, année après année. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sentent de l'amour. Imparfait! Imparfait! Mais ils sentent de l'amour, ils sentent de l'accueil. On leur parle d'un Dieu qui les aime. Et on ne leur présente pas un Dieu bonbon qui fait juste effacer toutes tes fautes. Non, la croix. C'est le prix de cette grâce-là. Pour moi, c'est gratuit. Pour Christ, ce n'était pas. Pour Dieu le Père, ce n'était pas. Et donc, il y a des gens qui fréquentent l'Église comme ça pendant des années, tout simplement parce qu'il y a cet avant-goût du ciel, il y a cette saveur, ce parfum du royaume de Dieu, de la famille de Dieu, de grâce. Reste pas là sur le parvis, entre dans la maison. Entre dans la maison, rentre dans la famille. Dimanche prochain, on va avoir des baptêmes. C'est beau. C'est beau. Et je prie pour que Dieu te convainque, toi, de te faire baptiser, si tu n'y es pas. C'est très beau. C'est glorieux, c'est merveilleux. Dimanche prochain, non, dans deux semaines, le 22. Voyez-vous, cet héritage n'est pas gagné comme si je pouvais l'acheter. Il est promis. Et donc, il est certain. C'est l'argument que Paul est en train de développer ici au verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Dieu n'a pas mis dans un testament toutes sortes de clauses qui feraient que si Abraham réussissait à répondre à tout ça, je te rendrai fertile, je rendrai ta femme fertile, vous aurez des enfants. Non, il n'y avait pas de loi à obéir, il y avait simplement une foi à avoir. Et c'est ça qui la rend certaine, cet héritage-là. C'est ça qui le rend certain, cet héritage-là. C'est le fait qu'il nous est donné simplement par grâce. Je n'ai qu'à y adhérer par la foi. Je n'ai pas à performer. Ce n'est pas un testament qu'on ouvre devant toi et qu'on dit, écoute, il y a un héritage extraordinaire à t'offrir. Maintenant, il y a des conditions. Si tu réponds à ces conditions, tu auras droit à cet héritage-là. Ce n'est pas ça. Les conditions ont déjà été remplies. L'ouverture du testament n'est que bonne nouvelle. Parce que Christ a rempli les conditions. C'est ce qui rend certain cet héritage-là. Paul dit, afin que ce soit par grâce, afin que la promesse soit certaine. Dieu est capable, parce que c'est celui qui donne la vie aux morts. Je sais qu'il va tenir toutes ses promesses, parce que c'est celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et Abraham, qui ne connaissait pas Christ comme on le connaît, croyait que Dieu pouvait ressusciter son fils Isaac s'il avait été mis à mort. Verset 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Si Dieu dit, si Dieu te donne une promesse, c'est comme si c'était déjà fait. Vous avez déjà entendu cette expression-là? C'est comme si c'était déjà fait. Quand Dieu promet, c'est comme si c'était déjà fait. Parce que Dieu est celui qui a créé l'univers par la parole. Dieu est celui qui a sauvé les pécheurs par sa parole, incarné, devenu homme, mort sur la croix, ressuscité d'entre les morts. Ce que Dieu déclare, il a la puissance de l'accomplir. Si Dieu te le promet, c'est comme si c'était déjà fait. Amen! C'est comme si c'était déjà fait. Heureux, Dieu ne me donne pas juste un pardon, il me donne un avenir. Alors, vis comme un héritier. Ne vis pas comme un mendiant. Plusieurs d'entre vous, vous vivez la vie chrétienne comme si vous étiez des mendiants. Cette semaine, remplace une plainte ou une peur par une prière de confiance. Père, tu m'as donné un avenir. Certains d'entre vous trouvaient que c'est un défi incroyable de remplacer une plainte ou une peur par une prière de confiance. Dieu t'a donné un avenir si tu es en Jésus-Christ. Investis dans ce qui dure. Pose un geste concret qui met ton argent, ton temps, dans le royaume, générosité, service, invitation, partage de l'Évangile, parce que tu sais à quel héritage tu participes. Tu sais ce qui compte, tu sais que tu appartiens au royaume de Dieu, tu sais que ça t'est promis. Bien, sois conséquent. Je ne peux plus vivre comme si j'étais simplement un citoyen de la terre, j'attends la mort, puis après c'est fini. Non, déjà, je suis citoyen des cieux. Ma vie est consommée parce que j'appartiens à un autre royaume. Rappelez-vous, au début de la série, j'ai parlé de ces deux cités d'Augustin, la cité des hommes et la cité de Dieu. Nous participons, bien sûr, à la cité des hommes. mais nous vivons déjà dans la cité de Dieu. Agis comme tel, tu n'es pas un mendiant. Tu es riche d'être co-héritier avec Jésus-Christ. Traite l'Église comme ta vraie famille. Je ne suis pas en train de te dire de renier ta famille naturelle. Ce que je te dis, c'est que tu trouves dans l'Église une grâce. Rapproche-toi de quelqu'un, un appel, un repas, une prière, avec un frère, avec une sœur, parce que l'héritage promis commence déjà dans l'Église. Et l'Église est belle. L'Église est belle. Je l'ai souvent dit à l'Assemblée. S'il y a quelqu'un qui devrait trouver que l'Église est laide, c'est peut-être moi, parce que je connais beaucoup de choses depuis 30 ans. Puis pourtant, je la trouve magnifique, l'Église. Parce que je ne la regarde pas à travers nos faiblesses, mes faiblesses. Je la regarde à travers l'œuvre de Christ. C'est beau ce qu'il est en train de faire. Malgré les désastres, malgré les pleurs, malgré les larmes. Alors, imagine que ton dossier a été classé complètement. Imagine que tu es convoqué chez un notaire puis ton nom est là dans un testament. Quand tu sors de chez le notaire, il faut que tu continues à vivre dans la réalité. Parce qu'on attend le retour de Christ et la réalité n'est pas toujours facile. Et ça m'amène à mon troisième dernier point. Heureux celui qui espère quand tout dit le contraire. Voyez-vous, Abraham et Sarah étaient très âgés, Sarah était stérile. Humainement, leur histoire de postérité s'arrêtait là. Humainement, il n'y avait pas de suite à ça. Il n'y avait pas de descendance. Pourtant, Dieu promet à Abraham une postérité innombrable et lui demande de croire, non pas dans ses capacités. Il dit, je comprends Abraham, faites-en pas, je le sais, vous n'êtes plus capable, vous n'êtes plus capable. Je sais. Mais je ne te demande pas de croire dans tes capacités, mais dans la puissance et la fidélité de Dieu. Si Dieu promet, la chose est comme réalisée, qui tient sa parole même quand tout porte à croire le contraire. Abraham, croire quand tout porte à croire le contraire. C'est dit comme ça dans la sommaire, j'ai aimé la formule. Alors que tout portait au contraire, il eut confiance, plein d'espérance. Dans la nouvelle édition Genève, espérant contre toute espérance. Bien, c'est ce que tu as cru si tu es devenu chrétien. Tu as cru contre toute espérance qu'un Dieu saint, juste et bon avait donné son Fils pour que tes péchés soient pardonnés. Tu as cru ça. C'est inespéré. Moi, je te dis tout de suite, j'ai deux enfants, j'en donnerai jamais un pour aucun d'entre vous. Vous pouvez tous mourir. C'est vrai. Qu'il y en ait un qui vienne me dire qu'il donnerait son enfant pour moi. Menteur. Contre toute espérance, c'est ça que vous avez cru. Quand vous êtes devenu chrétien, vous avez cru contre toute espérance qu'un être parfait, juste et bon aurait donné son fils, que ce fils-là se serait donné volontairement. Vous avez cru contre toute espérance. Tout le contraire nous dit, mais non, pourquoi Dieu se casserait la tête avec nous? Abraham croit alors que tout porte au contraire. Parce que voyez-vous, Dieu peut accomplir ce qu'il promet. Au verset 21, « Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Et c'est là que l'Évangile devient concret. Croire que Dieu m'a pardonné mes péchés et qu'un jour je me présenterai devant lui, puis « Tagadam, je suis pardonné de mes péchés », c'est une chose. Mais croire à tous les jours que Dieu est avec moi, que je suis vraiment son enfant, qu'il m'aime à travers les difficultés de la vie, quand c'est dur de croire. Tu sais, quand Dieu t'apparaît et dit, « Non, je te dis, ta femme va être enceinte l'année prochaine. » Yeah, on a vu le médecin 72 fois. Arrête ça, non. Tu comprends, c'est là que l'Évangile devient concret. Est-ce que vraiment tu crois que Dieu a pris ton dossier et qu'il l'a déchiqueté? Est-ce que tu crois que ton nom est inscrit dans ce testament-là? Est-ce que tu crois vraiment ou « Oui, ça sera bon pour mon éternité. Au jour de ma mort, je croiserai les doigts puis je dirai « J'espère que c'était vrai, hein, Jésus? » Non, l'Évangile est plus concret que ça. L'Évangile, c'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant, une espérance qui tient parce qu'elle repose sur Dieu, parce qu'elle repose sur Jésus. Et c'est merveilleux parce que regardez ce qui est dit au verset 24, « C'est encore à cause de nous. » C'est bon pour Abraham, mais c'est bon pour nous, pour toi et moi. Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un d'aussi grand qu'Abraham ici. Je suis désolé de vous le dire, j'en ai pas rencontré. Mais c'est bon pour toi puis moi. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. Qu'est-ce qui sera imputé? La promesse va nous être donnée, va nous être remise. De la même manière qu'il ne nous impute pas nos fautes, il ne nous compte pas nos fautes, il va au contraire nous imputer la promesse de cet héritage glorieux. À nous qui croyons en celui qui est ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, tout ce que ça te demande, c'est de croire en Jésus-Christ. Et ton dossier est effacé, et ton nom est inscrit dans le testament, et tu apprends à marcher par la foi. Notre foi vise le Dieu qui a ressuscité Jésus. Regardez le verset 24. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. À nous qui croyons en Dieu, pourquoi? Parce qu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et si ce qui t'empêche d'entrer dans la famille de Dieu, c'est que tu dis, moi, je ne crois pas ça qu'un homme est ressuscité d'entre les morts. Je vais te le donner, c'est difficile à croire. Mais je te mets au défi de faire des recherches sérieuses. Je te mets au défi de lire les Écritures. Je te mets au défi de voir les preuves historiques qui sont là. Je te mets au défi de mettre Dieu au défi. Et dire, Dieu, si tu es vivant, si vraiment ton fils est vivant, je te mets au défi de changer mon cœur et de me donner cette foi-là. Je te mets au défi de le faire. Parce que Dieu est grand. Il est capable de supporter bien des défis, je vous l'assure, pour sauver ton âme et te faire rentrer dans la famille de Dieu. Notre foi vise le Dieu qui a ressuscité Jésus. Jésus, livré et ressuscité, devient le socle, la base de notre foi au quotidien pour ne pas vivre des vies misérables comme chrétiens, comme des mendiants spirituels, comme des gens qui ont honte de ce qu'ils sont, comme des gens qui ne sentent pas qu'ils font partie de la famille de Dieu. Au contraire! La mort et la résurrection de Jésus devient la base de notre foi. Jésus qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Écoutez la douceur de cette phrase. À cause de nous. À cause de nous, pas seulement Abraham. L'histoire d'Abraham, ce n'est pas seulement un récit ancien. Non, Dieu a écrit ces mots pour que nous sachions où poser notre foi au quotidien. Paul ne nous demande pas d'admirer Abraham de loin. Il nous dit au contraire, entrez dans la même logique de grâce. Alors qu'Abraham a quitté cette terre où il était et qui a décidé de suivre Dieu, alors qu'Abraham a décidé d'avancer avec Isaac, alors qu'Abraham a décidé de simplement faire confiance à Dieu, Dieu m'appelle à faire la même chose, moi aujourd'hui, entrer dans la même logique de grâce. Je crois que Dieu m'a couvert de sa grâce. Et donc, je vais marcher comme un co-héritier de Christ, comme quelqu'un qui appartient au royaume de Dieu. Ce qui a été vrai pour lui devient vrai pour nous. Dieu accueille et déclare juste ceux qui croient. Remarquez où Paul dirige notre regard. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre foi ne repose pas sur une force intérieure. Je ne te demande pas de croire en toi ce matin. Non, je te demande de croire en celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est magnifique. Notre espérance a un nom, elle a un événement. C'est Jésus-Christ mort sur la croix, ressuscité d'entre les morts. C'est ça notre espérance. C'est incroyable. Et ce verset est une invitation. Si Dieu a pu ressusciter Jésus, il peut te porter dans ta vie au quotidien. Tu peux marcher par la foi vraiment. Ta foi n'est pas une illusion, elle repose sur la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Paul dit en substance ce que Dieu a fait pour Abraham en lui donnant une promesse impossible, il l'a fait encore plus clairement en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Si Abraham a pu croire à plus forte raison, on peut croire. Amen? Parce qu'on connaît l'histoire. On connaît comment Dieu réalise cette promesse donnée à Abraham, que de toutes les nations de la terre, il ferait sa descendance. Lorsque Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, l'Église a commencé à annoncer l'Évangile. Et les gens se sont convertis par milliers, puis par millions. Depuis 2000 ans, rien ne peut arrêter la progression de l'Évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Et Paul resserre aussitôt cette déclaration incroyable en deux battements de cœur. Il dit « Livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. » C'est beau. « Livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. » La vie chrétienne se commence et se poursuit de la même manière par la foi. On entre dans le salut en s'appuyant sur Jésus-Christ par la foi, livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Et ensuite, on apprend à marcher jour après jour en prenant appui sur ce même fondement qu'est l'Évangile. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Je reviens à la grâce tous les jours. Je me rappelle de mon identité en lui et j'apprends à marcher par la foi. David a vécu avec la profonde conviction que son passé était derrière lui, était pardonné. Abraham s'est engagé dans son avenir par la foi entièrement. Je demandais à l'équipe de louanges de venir me rejoindre à l'avant. La question cette semaine est très, très simple. Dieu t'appelle-t-il à marcher par la foi cette semaine? Est-ce que tu dois passer d'un invité à la table, d'un invité à l'Église, à un co-héritier avec Christ? Peut-être que c'est ça. Je reviens à mes deux images. La première, c'est le dossier. Peut-être que ce matin, là où Dieu te parle, ce qui t'interpelle le plus, c'est ton passé. T'es quelqu'un qui vit dans la honte de ce que tu es parce que. Des fautes, des regrets, des péchés, des paroles, des choix, des habitudes, des dépendances. Et tu traînes ça comme un dossier intérieur. T'as pas besoin que personne te tape sur la tête, tu le fais constamment toi-même. Écoute David, heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient plus son péché contre lui. C'est ça l'Évangile. C'est incroyable. Dieu ne te dit pas « Améliore-toi et on verra. » C'est pas ça qu'il dit. Il dit « Non, je t'accueille, je te décharge complètement. Et ensuite, je vais t'instruire dans mes voies. » Et ça change tout. Ça change tout. J'appartiens et ensuite, je grandis. Ça change tout. La deuxième scène, le testament. Dieu ne fait pas que fermer ton dossier, il ouvre un testament, il ne te laisse pas au point mort. Certains d'entre vous, vous marchez dans la vie chrétienne au point mort. Vous attendez la fin pour vous présenter devant Dieu en vous disant « ça ira mieux ». Non, ça ira mieux maintenant. Maintenant, parce que ton nom est dans le testament. Et tu as la preuve que ton nom est dans le testament parce que tu as reçu l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint te dit de t'approcher de ton Père avec tes fardeaux, avec tes lourdeurs, avec tes plaintes, de venir dans sa présence, les déposer à ses pieds, confiant qu'à travers les épreuves de la vie, à travers les difficultés, il est là avec toi. Et l'Église est là pour toi, pour t'aider à vivre cette vérité-là. On est là les uns pour les autres, précisément pour cette raison-là. Tu n'as plus à vivre comme un mendiant spirituel, quelqu'un qui vient quêter à Dieu une faveur cette semaine dans une vie misérable que tu détestes. Tu n'as pas à vivre comme ça, même si la vie est difficile. Tu comprends, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas l'annonce d'un cancer cette semaine. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que tu peux avoir la certitude que Dieu est avec toi, que l'Église est avec toi, que son Esprit est avec toi, que tu fais partie de la famille, qu'il n'a rien échappé parce qu'il a donné son Fils pour toi. Et tu peux marcher par la foi, tu peux entrer par la foi dans cette vérité-là, vivre comme un co-héritier de Christ. Et peut-être que c'est ça qui manque, en fait. C'est que tu n'as pas appris à marcher par la foi. Tu as cru en Jésus pour le pardon de tes péchés, mais tu n'as pas appris au quotidien à revenir à ces vérités-là. Je vous le dis, Paul n'est pas en train d'écrire cette lettre-là pour des non-chrétiens. Il veut se rendre à Rome pour annoncer l'Évangile à des non-chrétiens, mais cette lettre-là est écrite à l'Église. Et donc, Paul a la ferme conviction qu'il y a plein de chrétiens qui vivent avec un évangile qui leur a servi à se faire baptiser, qui leur donne de l'espoir au jour de leur mort, j'espère, Jésus. Mais ce n'est pas ça, l'évangile. L'évangile est tellement plus que ça. Certains d'entre vous, vous devez grandir parce que votre vie chrétienne est misérable, parce que vous ne vivez pas dans ces vérités-là. Et Dieu veut te bénir. Dieu veut te conduire à marcher par la foi. Est-ce que tu as besoin que Dieu ferme ton dossier? Peut-être. Est-ce que tu as besoin que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois ton avenir en Jésus-Christ? Est-ce que tu as besoin d'apprendre à espérer quand tout dit le contraire? Si le Seigneur te parle ce matin, on va aller dans la prière. Je vais prier pour nous, mais je t'invite à prier dans ton cœur. Seigneur, j'ai besoin que tu fermes mon dossier. J'ai besoin que tu ouvres mon avenir. J'ai besoin que tu me fasses tenir alors que tout dit le contraire. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous venons dans ta présence parce que tu es merveilleux. Quelle grâce de pouvoir explorer ta parole comme ça, être saisi par ton amour, par la richesse, la profondeur, la majesté de l'Évangile. L'Évangile est tellement beau, tellement riche, Seigneur, et on vit souvent comme des mendiants spirituels, comme si on n'était pas vraiment tes enfants, comme si nous n'étions pas vraiment des héritiers d'Abraham. Seigneur, apprends-nous à accepter par la foi que tu as pardonné tous nos péchés et que tu nous aimes vraiment. Apprends-nous à accepter par la foi que nous participons à cet héritage extraordinaire, que nous sommes de la postérité d'Abraham, qu'un avenir glorieux nous est réservé et que déjà on peut marcher par la foi. Seigneur, je te prie de parler à nos cœurs. On est tous à des endroits différents, mais ton esprit est puissant pour nous visiter et venir appliquer ta parole dans nos cœurs là où nous sommes. Oh, sois béni, Jésus. Sois béni, Jésus. Amen.